Bonjour et bienvenue sur Pensée incandescente.
Je suis Guillaume.
Je suis Julien.
Et aujourd'hui, on va vous parler de la fâcheuse tendance qu'a notre cerveau à créer du sens là où il n'y en a pas. Peut-on faire confiance à notre cerveau ? Si, à première vue, la question peut paraître provocante, en y regardant de plus près, il apparaît que notre cerveau est bien loin d'être infaillible. Par exemple, qui ne s'est jamais fait avoir par une illusion d'optique laissant entrevoir des couleurs, des formes ou des mouvements n'existant pourtant pas ? Notre monde contient une masse d'informations tellement importante que notre cerveau n'a d'autre choix que de filtrer ces données, ce qui nous permet de poser des jugements rapides sur les situations que nous rencontrons au cours de nos vies. Et il faut bien garder en tête que notre cerveau est le résultat d'un long processus d'évolution biologique, durant lequel nos ancêtres étaient conduits à prendre des décisions rapides afin d'être capables de survivre et de transmettre leurs gènes. Cette nécessité impérieuse de survie a conduit notre cerveau à fonctionner avec des biais cognitifs qui seraient impossibles d'énumérer ici, déjà parce que je suis loin de tous les connaître, et ensuite parce que ça prendrait trop de temps. Aujourd'hui, on va uniquement s'attarder sur l'un de ces biais en interrogeant le sens des histoires que notre cerveau nous raconte pour lier les petites parties du réel qui se présentent à nous. Et pour ça, Julien, tu vas, je crois, nous parler d'une expérience sur des pigeons réalisée par Skinner, un célèbre psychologue dont on avait déjà parlé dans l'épisode précédent d'ailleurs.
Dans l'épisode 2 sur les conditionnements, nous avions parlé de Skinner et de sa boîte à pigeons. Pour résumer, un pigeon enfermé dans une boîte parvient rapidement à associer le fait de pousser un bouton et l'accès à une récompense, en général de la nourriture. Comportement que l'on retrouve chez l'humain. Si par exemple Madame Dupont fait son travail, elle aura de l'argent. Donc, elle travaille. C'est ce qui se passe tous les jours.
Comme la plupart des êtres vivants, le pigeon associe rapidement le bouton sur lequel il appuie et la récompense. Mais lorsque c'est une minuterie qui fait tomber automatiquement une graine toutes les 20 secondes, le pigeon s'interroge. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Si au moment où la graine est tombée, il battait des ailes, il va continuer à battre des ailes, convaincu que son action a une influence déterminante sur ce qui lui arrive. On appelle ça la superstition du pigeon.
Ainsi, le pigeon reproduit le comportement, battre des ailes ou remuer sa tête, en croyant qu'il aura ainsi de nouveau la récompense, dans un espoir de lien de causalité. Or, bien qu'il y ait une corrélation, il n'y a en réalité aucun lien de cause à effet. Maintenant, est-ce qu'on peut extrapoler ce phénomène à l'humain ? Eh bien, oui. Je prends l'exemple des porte-bonheur. Si Monsieur Dupont porte sa chemise verte le jour de sa première embauche, et qu'il la porte aussi, par exemple, en sortant en boîte pour draguer et qu'il réussit à sortir avec la future Madame Dupont, il peut alors facilement croire que sa chemise verte lui porte chance, et peut avoir tendance à la sortir pour lui apporter de la chance dans n'importe quelle autre situation. Chance qui n'existe que dans les croyances de Monsieur Dupont, chemise verte qui n'a aucun lien de causalité autre qu'un effet placebo, et effet placebo qui n'est propre qu'à la confiance de Monsieur Dupont en lui-même, sans aucune relation causale avec son environnement.
Alors, il y a un autre type de situation où notre cerveau a tendance à créer du sens là où il n'y en a pas, c'est lorsqu'il est soumis à des stimuli visuels ou auditifs assez vagues, qu'on a du mal à identifier. Dans ces conditions, on peut être amené à identifier des formes, si on parle de stimuli visuels, ou des paroles, si on parle de stimuli auditifs, qui n'existent pas. L'exemple le plus familier qu'on peut donner, c'est l'observation des nuages. L'observation des nuages peut laisser entrevoir des formes ou des visages qui n'ont pas de réalité physique, mais qui relèvent du phénomène que l'on appelle la pareidolie. Donc la pareidolie, c'est la tendance qu'a notre cerveau à recréer du sens à des formes aléatoires en les associant à des formes que l'on a l'habitude d'observer dans notre vie de tous les jours. Et comme je disais, il existe également des pareidolies auditives où notre cerveau peut recréer des sons familiers à partir de sons vagues. Par exemple, il y a des chansons en langue étrangère où on a tendance à entendre des paroles en français, ce qui peut être assez drôle. Par exemple, dans cet extrait de Metallica, on peut entendre « Nous battons des œufs » et « Cui-cui, ils sont durs ». Alors que c'est pas du tout ce qui est dit. Et ça marche encore mieux quand on parle mal anglais comme moi. Je repasse l'extrait.
En réalité, il dit « New blood joins this earth and quickly he subdued ». Ce qui veut dire « Du sang nouveau touche la terre et rapidement il se soumet ».
Alors, l'une des hypothèses qui permettrait d'expliquer ce phénomène, ce serait l'avantage évolutif biologique que constituerait la faculté à reconnaître des visages et des perceptions du quotidien, et ce qui offrirait des avantages en termes de socialisation ou d'identification de menaces, par exemple. Cette sensibilité, elle augmente les chances de survie en offrant un jugement rapide, mais au détriment de la précision.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, la zone du cerveau responsable de la reconnaissance des formes est le lobe temporal. Et les personnes qui ont des lésions à cet endroit souffrent parfois d'agnosie, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des difficultés à reconnaître des visages. Ça peut aller même jusqu'à l'incapacité de reconnaître un visage.
Ce qui est assez problématique, ça veut dire qu'ils rencontrent des gens et que s'ils les revoient plus tard, eh ben, ils les ont en fait... pas oubliés, mais ils sont pas capables de les reconnaître à partir de leur visage. Il faut qu'ils se fient à d'autres éléments, en fait.
Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément très simple.
C'est assez problématique, ouais. Alors, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ces phénomènes, de pareidolie, il y a un courant qui s'appelle la psychologie des formes, et qui, à travers notamment certaines lois qu'on appelle les lois de Gestalt, dont on avait un peu parlé aussi à l'épisode précédent, qui s'intéresse à la façon dont notre cerveau opère ses représentations et théorise, par exemple, la tendance qu'on a à se représenter des formes globales plutôt qu'une somme de détails. La tendance de notre cerveau à recréer du sens à partir d'éléments qui ne sont pas reliés entre eux peut donner lieu parfois à des théories relevant plutôt de la pseudo-science. Et notamment en psychanalyse, il y a quelques exemples.
Il y a une pareidolie assez connue et utilisée dans les films qui aurait pour objectif de révéler l'identité, l'inconscient des personnes, donc typiquement relevant de la psychanalyse. Et c'est le fameux test de Rorschach, qu'on appelle aussi les taches d'encre. Ce test, il est souvent mis en scène par les psychologues ou les psychiatres pour diagnostiquer des problèmes mentaux, notamment des déviances. En gros, dire que si un tel voit une chauve-souris, puis une cape noire, puis une arme à feu par exemple, son esprit est sombre et dangereuse. Et si un tel voit un vagin, une femme avec des formes et un sextoy, alors c'est un obsédé sexuel, etc. etc. Mais en fait, personne n'a jamais montré que cette lecture identitaire, au moins sur le moment, n'était fondée. Et on ne sait pas que ça marche. Or, comment peut-on se reposer sur quelque chose dont on ne connaît pas la fiabilité ? C'est d'autant plus dangereux quand ça implique des diagnostics de déviance ou de problèmes mentaux et du coup des possibles passages en hôpital psychiatrique. Bon, évidemment, c'est pas reposé que sur ça, mais ça participe.
Ça peut avoir des répercussions assez graves à partir de raisonnements qui sont biaisés à la base. Et d'ailleurs, pour rester dans le domaine de la psychanalyse, sur Internet, on peut trouver une multitude de sites qui prétendent être en mesure d'interpréter nos rêves. Alors, le rêve, c'est un domaine qui est fascinant, mais dont l'interprétation peut très vite être hasardeuse.
Et que bien des psychologues ont essayé de théoriser. Freud y voyait un sens caché, révélateur de notre inconscient, de manière systématique. Là où le philosophe et mathématicien français, d'ailleurs, Bergson, y voyait plus une transcription imagée et émotionnelle de notre environnement, de la nuit. Avec les sons, les sensations avec le drap, les odeurs, etc. Et aussi des souvenirs de la journée.
Alors j'en arrive maintenant à la psychologie, aux psychologies des rêves. Donc les rêves renvoient aussi à des perceptions extérieures transformées. Alors on l'avait vu avec Goya, on le voit aussi avec, par exemple, Bergson, le philosophe Bergson, qui publie en 1901 une conférence sur les rêves, et il raconte l'un de ses rêves dans lequel il est en train de faire une conférence dans le rêve, évidemment, et il est hué par la salle, ce qui, évidemment, n'est pas du tout sa situation ordinaire, puisque c'est un conférencier extrêmement adulé. Et tout le monde crie « à la porte, à la porte ». Et à ce moment-là, il se réveille, et ce sont les aboiements d'un chien qui se sont transformés dans son rêve et sont devenus « à la porte, à la porte ».
Scientifiquement, aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir du sens dans nos rêves, mais pas de manière systématique. Et il n'est pas chose aisée de distinguer ce qui peut être interprété de ce qui ne peut pas l'être. Et il faut garder à l'esprit que l'interprétation des rêves peut être biaisée par notre tendance à créer du sens naturellement là où il n'y en a pas forcément.
Pour résumer, dans les rêves, il y a de la pareidolie, dans leur création. Pas que, mais ça participe. Et de la possible forme de superstition du pigeon, si on tente systématiquement d'y chercher une forme de traduction freudienne de l'inconscient, avec des signes cachés, révélateurs de telle identité ou pas.
Ouais, c'est ça. Pour poursuivre sur les pareidolies, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'elles peuvent entraîner toute une série de théories un peu complotistes. Je m'explique. Je me rappelle par exemple lors des attentats du 11 septembre 2001, lorsque l'un des avions avait percuté l'une des tours jumelles, il y a eu une épaisse fumée qui s'est échappée du building, et à travers laquelle certains pouvaient ont cru percevoir un visage maléfique serait selon eux la preuve que l'attentat serait dû à l'œuvre du diable. Donc c'est l'une des théories complotistes qui peut s'appuyer sur une paraïdolie. Il y en a d'autres, des exemples comme ça. Par exemple, lorsque la NASA a commencé à partager des photos de la surface martienne, il y a plusieurs personnes qui ont affirmé qu'il y avait des visages martiens dans le sable, ce qui serait donc la preuve irréfutable de l'existence d'extraterrestres. Alors qu'on peut expliquer aussi ces observations par une pareidolie, par donc notre tendance à reformer des éléments qui sont pas liés entre eux pour laisser apparaître un visage.
Et puis aussi, il faut être honnête, qui n'a pas envie de rencontrer ou du moins de savoir qu'il y a des formes d'extraterrestres pas trop loin, quoi. Forcément, on a envie d'y croire, donc on y croit beaucoup plus facilement. Et pour continuer dans le même acabit, les créations de sens là où il n'y en a pas font foison dans les signes religieux et les miracles. Entre un toast de la Vierge Marie vendu à 28 000 $ il y a quelques années aux États-Unis, le pancake Jésus ou Dieu qui envoie des messages par le signe du cruciforme dans une patate, on voit bien que notre esprit nous joue des tours.
Pour rester dans le domaine du paranormal et de l'étrange, on peut aussi prendre l'exemple de la théorie de la transcommunication instrumentale qui prétend qu'on serait capable de communiquer avec les défunts. L'idée de cette théorie, c'est que les morts pourraient communiquer à travers des fréquences que l'on pourrait capter pendant, par exemple, l'enregistrement à blanc d'un microphone ou dans le bruit diffus d'une radio. Ces captations pourraient pourtant tout aussi bien relever de simples pareidolies auditives dont on a parlé tout à l'heure, et qui nous laisse donc entendre des sons familiers dans une masse d'informations imperceptibles. Alors, bien entendu, je dis pas qu'il faut pas croire à cette théorie, ça c'est un choix personnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a une autre théorie qui permettrait d'expliquer ces captations. Ensuite, sachant ça, chacun croit ce qu'il veut.
Et en parlant de chacun croit ce qu'il veut, dans les jeux de croyances et de la frontière entre l'imaginaire et la réalité, est-ce que certains d'entre vous ont déjà passé tellement de temps sur un sujet en particulier, voire une série ou un jeu, que vous viviez carrément ce sujet, ou cette série, dans la réalité? Genre, tu regardes Game of Thrones à fond depuis des semaines, et tu sors faire une balade dans la nature, et tu vois un rocher qui ressemble au trône de fer. Ou tu rêves et tu vois des équations et des nombres partout. Bon, ok, je l'avoue, ça n'arrive pas à moi ni à la plupart des gens. Mais par exemple pour le français Henri Poincaré ou l'indien Ramanujan, les maths étaient leur monde de tous les jours, et ça se transposait partout. Leur imaginaire, notre imaginaire, se confond plus ou moins à la réalité. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Tetris. Et ceux qui ont déjà joué à Tetris, plusieurs heures, peuvent facilement se reconnaître à s'imaginer imbriquer des formes réelles.
Pour conclure cet épisode, ce qu'on peut dire, c'est que même si notre cerveau est une machine incroyable, capable d'exécuter un nombre impressionnant de tâches et nous permettant d'évoluer dans notre vie quotidienne, il possède tout de même un certain nombre de biais dont il faut avoir conscience afin de renforcer nos systèmes d'autodéfense intellectuelle.
Et à défaut d'avoir un vrai système d'éducation où l'on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle, comme le souhaiterait Noam Chomsky, on peut au moins s'auto-éduquer en la matière.
Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode de Pensée incandescente.
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou à nous contacter directement sur la page Facebook de Pensée incandescente.
On se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour faire fonctionner tous ensemble notre esprit critique et approfondir un autre sujet.